Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Fortnite a fait un truc assez tordu, il faut l'avouer. Donc le jeu est gratuit. On peut jouer gratuitement, on peut être le premier mondial sans avoir payé un seul centime. Mais par contre, si on veut avoir un avatar fixe, il faut payer l'avatar. Il faut payer son skin, il faut payer ce à quoi on veut ressembler. Si on ne paye pas, eh ben à chaque partie à peu près, on aura un avatar aléatoire. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas fixer ce à quoi on ressemble, puisque à chaque partie ça changera. Et donc forcément, quand on est ado, eh ben ce côté identitaire est tellement important qu'on va être poussé à l'achat.
Rien qu'en France, on serait autour de 38 millions à jouer aux jeux vidéo. Des vieux, des jeunes et bien sûr des ados, plutôt des mecs, mais pas seulement. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la thune et avec notre intime ? Eh bien, énormément, figurez-vous. Le jeu, d'un côté, nous distrait, nous enthousiasme, nous motive et nous dévoile, et en nous imposant ses règles et son univers, nous fait un moment oublier le réel. Mais l'industrie du gaming, elle, n'oublie pas qu'elle a des devs, des commerciaux et des actionnaires à nourrir. Et de cette intrication sont nés plein de petits moyens de nous faire dépenser ou même simplement manier de l'argent, plus ou moins discrètement, au fil des plaisirs ludiques. Ça n'a pas été facile d'ailleurs de trouver un interlocuteur éclairé qui en parle sans conflit d'intérêts. Olivier Duris s'est prêté au jeu de cette interview qui risque d'intéresser au passage pas mal de parents. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Olivier Duris. Olivier, tu es psy, tu as 31 ans, tu es psychologue clinicien, oui. Très exactement. Et ce qui est surtout super pour nous, c'est que tu t'intéresses beaucoup aux jeux vidéo. Alors, avec toi, on va parler de l'interaction d'un objet souvent virtuel et dématérialisé, la thune, et d'un autre univers non moins virtuel et dématérialisé, le gaming, les jeux vidéo. Ce loisir contemporain qui attire, séduit, passionne parfois quelques 37-38 millions de personnes en France aujourd'hui, c'est ça hein ?
Oui, c'est un nombre assez impressionnant.
Aujourd'hui, on va parler de jeux comme Fortnite, League of Legends, qu'on appelle aussi LOL, Rocket League ou encore Diablo ou même Candy Crush. Tiens d'ailleurs, je cite ça en vrac, mais c'est quoi les jeux qui marchent le plus en ce moment ?
Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de la console ou de l'ordinateur. Faut pas oublier déjà qu'on parle quand même d'une pratique qui touche tous les âges. Hein. La moyenne d'âge du joueur en France est de 39 ans, donc c'est quand même pas rien. Donc en effet, il y a beaucoup d'ados qui jouent, mais c'est quand même, on va dire, une occupation qui touche aussi les adultes. Dans les jeux qui sont les plus cités aujourd'hui, parmi les plus joués, il y a Fortnite, il y a Minecraft, il y a les Sims, il y a Call of Duty.
Tous les jeux que tu viens de citer là, on est d'accord que c'est des jeux gratuits, non ?
Non. Non, Fortnite va être un free-to-play, donc ça on en parlera tout à l'heure, mais Minecraft par exemple est un jeu payant. Diablo, dont on a vite fait citer le nom tout à l'heure, est un jeu payant, donc ça dépend en fait de quel type de jeu. Il y en a certains qui vont être à acheter et d'autres qui seront en système de free-to-play.
Quand tu dis payant, ça veut dire que c'est des systèmes d'abonnement ou tu les achètes une fois pour toutes ?
Eh ben ça dépend des jeux. Minecraft par exemple, on l'achète une fois pour toutes, c'est une trentaine d'euros si ma mémoire est bonne, et puis après on a le jeu.
Ça reste pas très cher. Hein.
Ça reste pas très cher. Diablo par contre est plus cher. Diablo coûte à peu près entre 70 et 100 euros en fonction du jeu qu'on achète.
Mais bon, malgré tout, il y a pas mal de jeux quand même où on peut jouer sans débourser un centime, au moins au début.
Alors ça, c'est depuis quelques années maintenant. C'est vrai que quand moi j'étais jeune, par exemple, hein, ça n'existait pas ces jeux-là. Il fallait toujours acheter son jeu vidéo au début, dans les années 90, début 2000. Et après, au bout d'un moment, est apparu un système qu'on a appelé le free-to-play. Donc le free-to-play, c'était le principe de vous pouvez jouer gratuitement au jeu. Vous pouvez jouer gratuitement sans avoir à payer soit d'abonnement, soit même le jeu. Et après, il y a un moyen de vous faire débourser de l'argent dedans en fonction de ce que vous voulez. Acheter des skins, acheter des modifications de gameplay ou des choses comme ça. Et
chaque jeu va être différent. Alors on va expliquer tout ça, ouais, parce que c'est quand même un truc. J'ai découvert d'ailleurs que les premiers systèmes pour faire des jeux gratuits, mais qui incitent à plein de petites dépenses, parfois un peu pernicieuses ou amusantes, c'est assez récent. D'après ce que j'ai lu, c'est en 2006 qu'un premier jeu vidéo, qui s'appellerait Elder Scrolls Oblivion, a imaginé une formule qui a fait mouche, qui s'appelle la microtransaction.
Alors, je suis pas sûr que Oblivion en 2006 soit la première microtransaction. Certains disent que le principe qu'avant, quand on jouait au jeu d'arcade, il fallait mettre sa pièce pour continuer la partie dans la salle de jeu, c'était déjà un premier début de microtransaction. Par contre, ce que Oblivion a fait en 2006, c'était la première fois qu'on voyait ça. Ça veut dire que c'était un jeu qu'il fallait payer pour jouer, hein. Comme Zelda par exemple, hein, on payait son jeu et on jouait autant qu'on voulait. Et sauf que en 2006, ils ont sorti une armure pour cheval. Donc c'était juste un skin, une apparence qui n'apportait rien de plus.
Un skin, on peut définir ce que c'est.
C'est une apparence. Voilà, c'est vraiment l'habillage d'un personnage.
T'as un petit bonhomme et puis tu lui mets une trombine, une gueule, c'est une armure.
Ça ne change rien à la manière de jouer. C'est juste une apparence, c'est juste esthétique. Et là, ils avaient sorti en 2006, du coup, une armure pour un cheval qui coûtait 2,50$, si ma mémoire est bonne. Et c'était la première fois qu'on voyait une microtransaction comme ça. Ça veut dire qu'il n'apporte rien à part juste une apparence et qui coûte si cher. Parce que 2,50$ aujourd'hui, ça paraît rien, mais pour l'époque, les gens, c'était insurgé. Et en fait, c'était assez marrant de voir que ça a été un tournant où les gens commençaient à râler par rapport au fait qu'on allait devoir dépenser pour juste des apparences, mais il y a eu des millions de ventes de cette armure-là. Et donc, en fait, c'est un tournant, en tout cas, dans le monde des microtransactions.
Ok. Donc, les microtransactions, c'est ces petits paiements, en tout cas, qui permettent pour quelques euros, quelques centimes, quelques dollars, d'avoir en vrac des vies de plus à Candy Crush, par exemple, ou d'acheter donc des habits, des accessoires, des objets qu'on peut utiliser dans le jeu. Alors, la microtransaction, ça m'interroge beaucoup. Comme tu le remarques, déjà, ça concerne souvent, beaucoup, des objets d'apparat. Des trucs qui servent pas forcément à grand-chose. En tout cas, c'est pour faire joli. Et tu viens de dire que cette armure à 2,50$, elle s'est vendue à des millions d'exemplaires. C'est ouf. Donc c'est des petits objets qui servent à rien, hein, on est d'accord.
C'est compliqué parce que ça va dépendre des jeux. En fait, les dépenses dans les jeux vidéo vont vraiment dépendre de plein de facteurs. Ça veut dire qu'on a des jeux, on va prendre le Zelda par exemple, et ben on paye Zelda, on joue à Zelda et tout va bien. Après, Zelda peut très bien proposer ce qu'on appelle un DLC. Donc c'est un contenu additionnel. Ça veut dire par exemple, pour le dire très vulgairement, un niveau en plus, un donjon en plus.
C'est une extension.
Voilà, c'est une extension. Donc par exemple, en achetant ça, c'est un monde nouveau qu'on connaissait pas. Oblivion par exemple avait de très bons DLC à l'époque, je me rappelle. C'est toute une île entière qui va apparaître et on va pouvoir jouer dessus avec des nouvelles quêtes ou des choses comme ça.
C'est chouette, t'as acheté un jeu et quand tu l'as fini ou quand t'en as un peu fait le tour, tu as encore plus de jeux à mettre dessus.
C'est ça. Donc ça, c'est un côté assez chouette hein, qui a d'ailleurs été rarement critiqué, sauf des fois quand les DLC sont une arnaque, mais bon, souvent, ça peut être bien fait. Il y en a d'autres après qui vont proposer du coup du paiement pour des apparences. Donc League of Legends le faisait beaucoup, Fortnite le fait aussi aujourd'hui, et où là on pourra en parler plus tard parce que d'un point de vue psy c'est très intéressant, mais l'idée c'est vraiment juste de changer l'apparence du personnage, de s'approprier l'apparence du personnage pour pouvoir donner à voir quelque chose d'autre, et où ça ne change pas du coup le jeu. Et il y a aussi certains jeux qu'on a appelés vulgairement, enfin en tout cas c'est pas la vraie appellation, mais qu'on appelle les pay to win. Et donc là où par contre quand on paye, ça va changer par exemple les pouvoirs qu'on va avoir, les capacités que va avoir notre avatar ou des choses comme ça, et celui qui paye sera meilleur que celui qui ne paye pas. Et où là déjà c'est problématique. Et après il y a d'autres jeux aussi qui ont pu être assez tordus au niveau monétaire. Je pense par exemple à Clash of Clans qui questionnait beaucoup les parents il y a 7-8 ans quand on commençait déjà à faire des conférences sur le sujet, parce que c'était un jeu où on se connecte, on décide de créer un bâtiment, et il y a 48 heures d'attente réelle pour que le bâtiment soit créé, sauf si on paye et qu'on attend que 5 minutes. Et donc le problème, c'est que quand on est un jeune et que tous ses potes payent et donc avancent très vite, et ben nous, on a forcément envie de payer pour avancer aussi vite qu'eux. Et donc là, c'est un autre système où on n'est pas du tout que sur du cosmétique, en fait. Donc vraiment, tout dépend du jeu, de l'expérience de jeu et de ce qui est offert, en fait, aux consommateurs.
On va examiner un peu tous ces aspects. Si on commence par la dépense qui ne change rien, quoi. La dépense qui est juste de l'ordre esthétique, de l'apparence, quoi. Esthétique. Est-ce que c'est pas finalement un peu comme certains adultes s'achètent des montres très chères qui ne donnent pas l'heure de façon plus précise, ou des habits ou des sacs, tu vois, très chers. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un objet positionnel finalement pour montrer aux autres que on l'a.
Alors ça peut l'être. Par exemple, on a des histoires comme ça en cours de récréation avec Fortnite au collège, où comme à l'époque où chacun se montrait ses dernières kickers ou ses dernières baskets, on avait tel ou tel skin. Après c'est un peu plus complexe que ça, je pense, parce qu'il y a aussi le fait que lorsqu'on est joueur de jeux vidéo, il faut bien comprendre que notre avatar, il nous représente. Il représente qui on est dans l'univers numérique. Et que d'un point de vue psy, en fait, il y a plein de choses qui vont se jouer dans l'investissement qu'on va avoir de cet avatar. On s'identifie à lui et on projette un peu de nous en lui. Et c'est toute la force du jeu vidéo, hein, cette interaction qu'on va avoir avec l'avatar. Tout comme sur un réseau social où notre avatar, c'est notre photo de profil, on investit notre photo de profil, ce qu'on veut donner à voir à l'autre. Parce que finalement, on montre un peu une part de nous-mêmes à travers ça. Et donc, à travers le jeu vidéo, Eh ben, pouvoir customiser son avatar peut des fois être intéressant aussi pour pouvoir justement à la fois se l'approprier différemment et à la fois montrer peut-être quelque chose de nous par le biais de cet avatar-là. Il y a plein de jeux qui proposent une customisation d'avatar gratuite. Les Sims, par exemple, c'est une customisation totale, mais enfin, je dis les Sims au hasard, mais il y en a
plein
d'autres.
Alors, les Sims, c'est une sorte de monde parallèle. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit monde parallèle où on évolue. On peut faire tout comme dans la vie réelle.
On peut construire sa petite maison, faire vivre sa petite famille ou des choses comme ça.
Voilà.
Mais il y a plein de jeux comme ça qui permettent une customisation de l'avatar. Et là, on va prendre l'exemple de League of Legends qui a été un phénomène il y a pas mal d'années où, en fait, c'était un jeu gratuit. Donc, en fait, on ne paye rien pour jouer à ce jeu.
Legends, c'est en revanche un jeu de baston un peu.
C'est deux équipes qui s'affrontent. L'objectif, c'est d'éliminer le camp adverse. Et chacun va avoir des pouvoirs et un rôle bien défini en fait, à tenir. Et vu que c'est un jeu gratuit, certains vont passer des fois 40, 50, 60 heures sur le jeu, voire même encore plus. Et en fait, proposer une customisation d'avatar, il y en a certains qui vont se dire « Personnellement, j'ai joué 100 heures à ce jeu, je peux bien mettre quelques euros dessus parce que j'ai aussi envie de pouvoir profiter du personnage que je joue tant et changer un peu son apparence. » Ce qui, d'un point de vue financier, n'est pas déconnant pour certains joueurs, en fait.
On parle de quel genre de somme ?
Ça dépend en fait des joueurs en fait. Après dans les jeux vidéo on voit, il y en a certains qui vont dépenser un peu, il y en a qui vont dépenser beaucoup, et il y a ce qu'on appelle le système des baleines dans certains jeux. C'est ceux qui dépensent énormément et qui font en fait vivre le jeu en général, mais où là on est sur des sommes astronomiques.
Mais si je veux avoir une chouette armure de mon petit bonhomme de League of Legends, quelques euros.
À mon avis, ouais, je pense pas que ce soit un achat horrible. En tout cas, c'est pas le prix d'un jeu vidéo non plus quoi. Et donc on cherche à donner à voir quelque chose de nous. Là où ça peut être un peu plus tordu, c'est si on prend en compte Fortnite, par exemple. Fortnite, qui est un jeu qui a explosé, et qui, justement, plaît beaucoup aux jeunes, surtout.
Tu peux nous dire un petit peu les bases, vite fait, de Fortnite ?
Le principe de Fortnite, en fait, c'est un jeu où on va commencer sur une carte, on va être 100 joueurs, et l'objectif, c'est d'être le dernier à être sur la carte. Un peu comme le film Hunger Games, Donc, c'est un espèce de battleground où l'objectif, c'est de survivre, et donc de se tirer dessus. C'est un jeu qui plaît beaucoup aux jeunes, parce qu'en même temps, il n'a pas de violence, il n'y a pas de sang, c'est très cartoonesque. Il a toutes les bonnes recettes pour réussir. Et en fait, il existe deux types de jeux. Avec Fortnite, il y a un jeu qui est payant en fait, qui était le jeu de base, et il y a le jeu qui est utilisé en free-to-play et qui a un énorme succès, et c'est ce principe de on est 100 sur la carte et l'objectif c'est d'être le dernier. Et en fait sur Fortnite, donc c'est un jeu qui plaît beaucoup aux jeunes, et quand on est jeune, justement cette question de l'apparence, de ce qu'on cherche à montrer aux autres est encore plus important. Pourquoi c'est encore plus important ? Parce qu'on investit déjà beaucoup les jeux vidéo, mais on investit aussi beaucoup le côté identitaire qu'on est en train de se créer, donc ce qu'on cherche à donner à l'autre, et on investit beaucoup ce que Serge Tisseron appelle l'extimité, donc le fait de montrer un peu aux autres une part de soi jusque la cachée pour pouvoir se la faire valider par autrui.
L'extimité,
un peu inverse de intimité.
Bien
en fait,
sûr, ça passe par les habits, ça passe par la coupe de cheveux, ça passe par l'apparence, l'attitude.
Ça part surtout aussi parce qu'on montre aux autres, par exemple sur les réseaux ou des choses comme ça, et de vraiment choisir quelque chose qui était jusque-là caché pour pouvoir se faire valider par autrui et de se le réapproprier après coup.
Hyper intéressant.
Et en fait, Fortnite a fait un truc assez tordu, il faut l'avouer. C'est que donc le jeu est gratuit, on peut jouer gratuitement, on peut être le premier mondial sans avoir payé un seul centime, mais par contre, si on veut avoir un avatar fixe, il faut payer l'avatar, il faut payer son skin, il faut payer ce à quoi on veut ressembler. Si on ne paye pas, à chaque partie à peu près, on aura un avatar aléatoire. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas fixer ce à quoi on ressemble, puisque à chaque partie ça changera. Et donc forcément quand on est ado, ce côté identitaire est tellement important qu'on va être poussé à l'achat. Parce que justement on n'a pas envie d'avoir un skin aléatoire, on a envie aussi de pouvoir se représenter comme on est. Donc c'est pas que cet objet qu'on veut montrer aux autres pour pouvoir se la péter un peu comme avec les nouvelles baskets plus ou moins chères. Il y a ça, mais il n'y a pas que. Il y a aussi ce côté identifiant, identificatoire, et justement chercher à se représenter un peu soi-même.
Alors, c'est quand même vachement bien fait, parce que j'ai l'impression que les montants dont on parle, c'est des montants qui sont assez proches de ceux que les parents peuvent donner à leurs enfants d'une façon générale. En gros, c'est assez fréquent qu'on paye une glace ou un bubble tea ou un burger à son gosse. Donc finalement, c'est un peu le même mécanisme. On veut lui faire plaisir, on lâche quelques euros.
Moi, c'est un peu ce que je conseille aux parents souvent. C'est de savoir que dans ces jeux-là, généralement, il y a soit possibilité de payer avec sa carte bleue, soit possibilité en fait d'acheter une sorte de carte cadeau en fait avec une somme fixe dessus. Et en fait, ce que j'explique aux parents, c'est que si par exemple votre fils ou votre fille joue à ce jeu-là qui est gratuit et qui vous demande par exemple un moment 20 euros de skin, ça peut faire une carte cadeau à Noël. C'est finalement 20 euros que vous avez mis d'accord, mais c'est un jeu qu'il investit, il passe du temps dessus. C'est pas non plus exagéré qu'il vous demande un petit peu de participation comme il demanderait d'acheter un jeu vidéo. Et au moins l'avantage de la carte cadeau, c'est que c'est fixe. Donc en fait, lui, il a son argent l'argent, il sait quoi en faire, et il n'y a pas la carte bleue qui peut tomber à n'importe quel moment. Parce qu'il y a aussi ce rapport à l'argent qu'il faut travailler.
Et oui, parce que ça peut aller très très vite. Clic, 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 la carte bleue, si le code est rentré dans l'interface et que l'enfant y a accès, alors on a vu des faits divers, hein. Il y a des ados qui, pour une raison X ou Y, accèdent au code de la CB de leurs parents et qui dépouillent leur compte en banque. C'est arrivé à des célébrités, c'est arrivé à, aussi à des anonymes. C'est allé jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. Est-ce que tu as vu des ados qui allaient trop loin comme ça, qui se rendaient pas compte, qui se rendaient plus compte du prix de l'argent ?
Oui, j'ai eu quelques patients qui avaient dépensé beaucoup d'argent avec la carte bleue des parents.
Des petits patients, ouais.
Certains sur les jeux vidéo, d'autres sur Twitch aussi, en don aux streamers ou des choses comme ça. Mais faut aussi conseiller aux parents de mettre un contrôle parental ou des choses comme ça. Après, comme ça a été dit, c'est souvent des faits divers. Hein. Faut pas imaginer que 100% des ados font ça. Et y a aussi ce fait que, l'achat par internet, c'est un achat qui se fait en un clic. Mais ça fonctionne pas que sur les jeux vidéo, avec Amazon, avec Alibaba, avec tous les sites aujourd'hui, on se rend pas compte de ce qu'on dépense. Et d'ailleurs, il y en a plein qui se font avoir comme ça, malheureusement. Alors, on voit avec les jeux d'argent d'ailleurs, les gens dépensent beaucoup plus sur le poker en ligne ou les jeux à gratter en ligne qu'au PMU, parce que en un clic, on dépense tout ça.
Il n'y a pas la démarche, il n'y a pas j'ai un rapport avec un marchand ou une marchande, je vois la matérialité de l'argent, je réfléchis à mon achat, tout ça, ça peut être complètement accéléré.
Ça peut aller très vite, ouais.
Ouais.
Les jeux d'argent en ligne, on s'en rend compte, quoi, par exemple, hein, l'argent part très vite en un seul clic, quoi.
Et les gamins, en plus, il y a le fait que ces petites personnes ne gagnent pas d'argent a priori et ne sont pas tellement en rapport avec l'argent, enfin en tout cas c'est pas leur univers.
Oui, c'est ça, et puis en plus on va pas forcément leur demander d'être conscient déjà du principe de l'argent à ce point dès leur plus jeune âge. Bien évidemment, on met pas la carte bleue sur la console ou sur le PC. Ça veut pas dire qu'on interdit formellement tout achat. C'est comme si vous promenez en ville avec votre gamin et qu'il vous demande tout le temps de lui acheter une glace ou un jouet ou un truc comme ça. Donc c'est un peu la même chose avec les jeux vidéo.
Là, on rebondit sur cette part hyper importante de l'achat qui contrebalance avec la frustration. Tu parlais de ces jeux où il fallait attendre si on ne paye pas et que ça pouvait créer des inégalités entre les joueurs selon qu'ils avaient les moyens ou pas.
C'est ça. Et donc, du coup, c'est là aussi où on peut questionner le genre de jeux qui vont fonctionner avec ce système économique-là, parce que, bien évidemment, ça joue sur la frustration. Et ça touche autant les adultes que les enfants, même si les enfants sont plus victimes parce que, justement, ils travaillent aussi leur rapport à la frustration, quoi.
Est-ce qu'il y a des modes ? Est-ce que les objets sont assez vite épuisés dans le désir qu'on peut en concevoir ?
Il y a évidemment des modes. Après, les modes sont longues. Hein. Fortnite, ça fait quand même quelques années maintenant que ça explose. Il y a des jeux qui durent très longtemps. Hein. Minecraft, par exemple, ça fait vraiment très longtemps. Parce que Minecraft, en même temps, c'est un jeu vraiment génial pour les jeunes, hein, que je conseille.
Minecraft, c'est un truc où on construit des machins.
C'est une sorte de Lego virtuel. C'est un jeu vidéo Lego. C'est très chouette pour les jeunes. Mais voilà, donc en fait, il y a des jeux qui vont durer très longtemps.
Il y a des objets qui ont des longs trends. Et il y a des skins à la mode qui peuvent durer assez longtemps, quoi.
Alors ça, pour les skins, ça va dépendre. Hein. C'est vrai que sur Fortnite, ça va être quand même assez court, hein, le temps dont durent les skins, parce qu'ils vont toujours en sortir des nouveaux ou des choses comme ça. Hein.
Il y a des jeux qui ont de l'argent à l'intérieur du jeu. Il y a les V-Bucks Fortnite, par exemple.
Ouais.
Il y a d'autres jeux qui ont des crédits, des coins, des pièces d'or. Est-ce que c'est central dans les jeux ? Est-ce qu'il faut savoir manier de l'argent pour bien jouer ? Est-ce que ça a une importance pour gagner ?
Ça va dépendre des jeux. En fait, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a différents types d'argent dans les jeux vidéo. Ça veut dire que, par exemple, il y a des jeux vidéo où il y a un système d'argent dans le jeu, mais pas du tout lié à un système d'argent réel. Par exemple, si on reprend les Sims, nos Sims, ils gagnent un salaire. Donc ça s'appelle des Simflouz, si ma mémoire est bonne. Et on va pouvoir s'acheter des meubles en fonction de l'argent que nos Sims ont gagné. Mais c'est pas notre argent à nous, c'est l'argent du jeu. Donc là, c'est autre chose, ça nous fait réfléchir autrement.
Tu penses que ça peut avoir une fonction d'apprentissage ?
Alors ça va pas faire un vrai apprentissage sur l'argent en lui-même, hein, par contre, mais ça peut faire un apprentissage sur justement la question de la frustration, sur la question de l'attente, sur la question aussi de la gestion aussi et tout ça. On parlait de Diablo tout à l'heure, pareil, dans Diablo on va emmagasiner des pièces d'or et qui vont nous permettre ensuite d'acheter de l'équipement et tout ça. Mais ça c'est pas la même chose que les fameux V-Bucks ou autres qui sont là de l'argent réel importé dans le jeu. Et
voilà.
C'est un peu plus tordu.
C'est des euros qui deviennent des V-Bucks.
C'est ça. Et ça, c'est le même principe que quand on fait une soirée étudiante et où en fait on achète des tickets de boisson et qu'on paye pas avec son argent.
Et on se rend compte d'ailleurs dans ces systèmes que souvent on dépense beaucoup plus d'argent.
Oui.
Même les jetons de poker d'ailleurs, quand on fait jouer des joueurs avec du vrai argent, ils réagissent pas de la même façon.
Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça qui est toujours assez tordu, c'est que ce système-là, un euro n'est pas égal à un V-Buck. C'est toujours une autre somme. Il y a une conversion. Quand vous êtes en festival aussi, vous allez acheter des tickets boissons. Et le ticket boisson, un ticket n'est pas égal à 1 euro. Et donc en fait, ça nous fait perdre un petit peu cette notion de l'argent aussi, parce que du coup, on réfléchit en fonction de l'argent qu'on a converti et pas de l'argent réel qu'on a mis là-dedans. Et il y a certains jeux aussi qui vont permettre des fois de gagner cet argent réel converti en jouant. Et ça aussi, ça peut avoir un côté assez tordu, parce que du coup, on va jouer plus pour gagner du vrai argent. Même
pour
si c'est pas de l'argent qui va venir sur notre compte en banque.
Ah oui, il pourra pas retourner dans ta poche.
Non.
Il restera dans le jeu, mais tu auras quand même l'impression.
Avec des choses qu'on achèterait avec du vrai argent. Donc là, c'est un peu tordu aussi. Donc ça, c'est le côté aussi un peu difficile. Et pareil, quand on parlait de la notion de l'argent chez les jeunes, bah, c'est compliqué aussi parce que, par exemple, quand on est un jeune qui n'est pas encore du tout à l'âge de réfléchir sur la question des euros et de l'argent, et bah, lui, en fait, il va se questionner sur plus les V-Bucks que sur l'argent en lui-même. Et du coup, c'est là aussi où il va y avoir un quiproquo entre parents et enfants aussi, justement. Donc c'est là où il faut aussi faire attention et un peu se renseigner là-dessus quand on est parent et que notre jeune joue à ça. Et qu'il faut aussi faire attention quand nous-mêmes, on est joueurs en tant qu'adultes, quoi, parce que, bien évidemment, on se fait tout savoir.
Oui, petit, grand, petite super promo en quelque sorte. Ces primes, par exemple, au fait de jouer très longtemps et d'avoir l'impression de gagner du vrai argent, ça peut marcher avec tout le monde.
On n'est pas sur un jeu d'argent, mais par contre, il va se dire, en faisant ça, j'ai économisé 3 balles parce qu'en fait, j'ai gagné l'équivalent de 3 balles, par exemple. Mais ça restera dans le jeu.
Alors, le maniement de l'argent atteint une autre dimension dans le jeu vidéo si on prend en compte une autre invention mise en place dans le domaine des échanges commerciaux au sein de ces jeux souvent gratuits, avec l'apparition de sortes d'hôtels de vente, de salles des ventes, de bourses d'enchères pour certains items, pour certains objets qu'on trouve dans les jeux. Donc c'est des lieux virtuels qui sont apparus, qui permettent de revendre, éventuellement avec une plus-value, des objets complètement virtuels. Tu parlais d'armure, ça peut être ça, ça peut être...
Des armes, des apparences.
Des armes, des apparences, tout
des
ça.
Des badges aussi, des badges. Des étiquettes, plein de choses.
Voilà. Donc en gros, le principe c'est quoi ? C'est je vais sur certains sites, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a des objets plus ou moins rares, et je peux mettre mon objet virtuel extrait d'un jeu en vente.
En gros, c'est ça. Alors après, il faut savoir que c'est un système quand même qui est pas non plus forcément très utilisé. Ça concerne une sorte de niche quand même. Ça concerne plus les adultes là-dessus. Et il faut savoir aussi que c'est pas tout le temps soutenu. Quand Diablo 3 a mis en place un hôtel des ventes, donc de cette manière-là, dans le jeu, ça veut dire que les joueurs pouvaient vendre leurs objets et avec de l'argent réel et tout ça. Ça a été tellement critiqué qu'au bout d'un temps, ils l'ont supprimé purement du jeu.
Pourquoi ça a été critiqué ?
Ça a fait un bad buzz parce que les joueurs n'avaient pas du tout apprécié le fait qu'il y ait de l'argent réel qui rentre dans le système de gameplay.
Ah, ça a déplu aux joueurs qui aient du vrai argent.
Et ils l'ont supprimé tout bonnement du jeu. Et Diablo 4 est sorti là il y a quelques mois et il n'y a pas d'hôtel des ventes dans Diablo 4. Et d'ailleurs, c'est ce qui était attendu. Les gens n'en voulaient pas. Alors peut-être qu'il y en aura un moment. Maintenant, il y a d'autres systèmes d'argent qu'ils ont mis en place ou autres. Par exemple, avec des saisons qu'on peut payer ou des choses comme ça. Mais c'est un autre type de jeu. Mais en tout cas, le principe de l'hôtel des ventes a été supprimé.
C'est quoi l'idée ? C'est que argent et ludique, ça va pas ensemble ?
Je parlais tout à l'heure des pay to win. Il faut savoir que c'est très critiqué chez les joueurs.
Alors les pay to win, on rappelle, c'est donc si tu as de l'argent et que tu en dépenses, tu peux gagner plus facilement.
Voilà, tu seras meilleur
jeux.
Que les autres.
Ouais.
Et ça, c'est pas très apprécié parce que du coup, ça casse un peu le côté ludique du jeu. En fait, ce que les gens veulent, c'est pouvoir jouer aussi à niveau égal, on va dire. Et donc,
ils veulent que ça récompense la performance
exactement.
Dans le jeu.
Et pas l'argent. Si par exemple on lance une partie de cartes avec quelqu'un et que lui, s'il a mis 5 euros de plus que nous, il a tous les as en main, forcément on n'a plus trop envie de jouer avec lui. C'est là que ça devient intéressant, c'est de questionner un petit peu le pourquoi on joue, comment on joue et qu'est-ce qu'on en fait. Et du coup, c'est là où on voit que l'industrie du jeu vidéo cherche toujours à travailler sur ce système monétaire finalement, parce que les jeux coûtent beaucoup plus cher qu'ils ne coûtaient avant. Et puis après, il faut aussi penser que le monde du jeu vidéo, c'est quand même un monde extrêmement large. Il y a un nombre énorme de jeux vidéo qui sortent chaque année. Et en fait, c'est vrai que là, on parle que de très gros jeux, ce qu'on va appeler les AAA. Donc c'est un peu les blockbusters qu'on voit au cinéma. Mais il existe un nombre incalculable de jeux vidéo indépendants, un peu comme on dirait les films d'auteur au cinéma. Et en fait, eux ne vont pas du tout avoir de système monétaire généralement. Les jeux vidéo indés, on achète son jeu vidéo et on joue au jeu vidéo. Après, ça va dépendre, il y a des jeux vidéo sur téléphone qui vont aussi être gratuits mais avoir un système de pub qui nous envahit ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il y a toujours un questionnement constant des entreprises de jeux vidéo sur comment se faire des sous. Un Fortnite et un Zelda n'est pas comparable sur le système monétaire. Un Minecraft et un Fortnite ne sont pas comparables non plus. Et c'est là où en fait c'est toujours...
Ils ne poussent pas peut-être même à la même façon de dépenser, ni à la même dépense.
C'est ça. Minecraft, généralement, on achète le jeu.
Après, une fois qu'on a fait ça, la plupart des gens ne dépensent pas plus d'argent.
Sur Minecraft, je crois qu'on peut payer pour avoir un serveur privé, par exemple, donc pour jouer entre amis sur un serveur seul. Mais c'est pareil, là, ça va être un système d'abonnement, mais c'est pas du tout obligatoire. On peut très bien jouer ensemble. Et c'est pas la même chose non plus, parce que c'est pas quelque chose qui va changer une apparence ou autre. C'est juste avoir son petit coin à soi pour jouer, par exemple.
Ça nous permet de rebondir, de faire un petit détour vers un point très intéressant, je trouve, sont apparus dans certains jeux, le fait qu'on puisse trouver des sortes de boîtes au trésor.
Des loot box.
Des loot box. Ouais. Le sujet des loot box est super intéressant.
C'est très intéressant, les loot box. Ouais. En fait, il faut comprendre que la loot box, ça vient d'un système de jeu qu'on appelle le loot. On parlait de Diablo tout à l'heure. Diablo, c'est un exemple parfait pour comprendre le loot. Le loot, c'est quoi? C'est le principe de, par exemple, à chaque fois qu'on va battre un gros monstre ou à chaque fois qu'on va trouver un coffre ou autre, il va y avoir une récompense aléatoire avec, je sais pas moi, des armes, de l'équipement ou des choses comme ça.
Et tout en fait, loot en anglais, je crois que ça veut dire dépouiller. Tu dépouilles le cadavre ou tu dépouilles les fortunes du petit monstre que t'as battu.
Voilà, parce que souvent le loot, hein, et ça existe dans tout système. Par exemple, moi je suis un grand joueur de jeux de rôle papier à la Donjons et Dragons. Bah, il y a du loot aussi dans Donjons et Dragons. Quand on bat le boss, on va gagner des épées ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est un système de jeu qui fonctionne bien. Et Diablo, par exemple, c'est le type de jeu qui va nous faire jouer en continu, en fait, tout le temps le même boss pour pouvoir récupérer de plus en plus de loot.
Donc tu vas le tuer et retuer et le retuer.
C'est un jeu où on joue en répétitif comme ça, mais pour pouvoir en fait à chaque fois améliorer son loot et améliorer ce qu'on appelle son build. Ça veut dire tout ce qu'on a comme armure, comme arme pour devenir plus puissant. Au bout d'un moment est arrivé un système de jeu qu'on appelle les loot box, et là c'est un petit peu différent. La loot box, en fait, c'est pas ce principe même du loot, mais c'est par exemple le fait qu'en dehors même du jeu en lui-même, enfin de l'expérience de jeu, on va pouvoir dépenser de l'argent pour acheter quelque chose qu'on obtiendra aléatoirement. FIFA par exemple va proposer le fait de ne pas acheter un joueur pour son équipe de foot, mais d'acheter une loot box dans laquelle on a un pourcentage de chance d'avoir le joueur qu'on veut. Hearthstone par exemple, qui est un jeu de cartes en ligne, un jeu de cartes deck building où l'objectif c'est de se battre un peu comme avec des cartes Pokémon, on va pouvoir dépenser de l'argent pour gagner aléatoirement un paquet de cartes un peu comme des cartes Pokémon. On a d'autres jeux avec lootbox comme ça qui vont se faire où en fait voilà, on paye la boîte mais on n'est pas 100% sûr d'avoir ce qu'on veut parce qu'en fait on chope quelque chose d'aléatoire.
C'est une petite boîte mystère.
C'est surtout un petit jeu à gratter. Et c'est là où c'est très problématique, parce que justement le problème c'est que les jeux à gratter font partie de ce qu'on appelle les jeux d'argent, là où il peut y avoir par exemple une addiction aux jeux d'argent. Hein.
Et on sait qu'il y a des gens qui, à 3% de gens aux États-Unis qui sont accros aux jeux d'argent. Et
en France c'est pas mal non plus, hein, je pense.
Oui, c'est juste qu'il n'y a pas de statistiques.
Voilà, mais le problème c'est que moi je fais partie de ceux qui justement militent pour expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo. Le problème c'est que quand on dit qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, on parle du jeu en lui-même. Mais quand les lootbox arrivent et se mettent en place, les lootbox sont des jeux à gratter dans le jeu lui-même. Je crois que c'était Star Wars Battlefront 2 et FIFA, qui ont été deux jeux très attaqués pour le système de lootbox, ont supprimé le système de lootbox pour pouvoir être vendu en Belgique parce que le gouvernement belge avait interdit l'utilisation des lootbox dans ces jeux. Et en France, l'Argel, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne, s'en occupe pas encore. Malheureusement, on aimerait bien, mais c'est assez compliqué parce que justement, comme ils disent, il n'y a pas de gain d'argent réel ou des choses comme ça. Mais pourtant, il y a quand même du travail.
Oui, tu gagnes pas de l'argent, tu peux pas gagner 100 euros, mais tu peux gagner un super bonus dans le jeu.
C'est ça. Alors c'est pas forcément un super bonus, ça peut être un skin ou autre, peu importe, hein, mais voilà, en tout cas c'est un côté un peu tordu. Et en fait voilà, c'est là où il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, sur ce système des loot box. Les études actuelles ne montrent pas encore qu'il y a de risque de tomber dans le gambling, donc dans l'addiction au jeu d'argent avec les loot box, mais que par contre si on est déjà sujet en fait à cette addiction au jeu d'argent, on risque de se faire plus facilement avoir. Mais j'attends qu'il y ait encore de nouvelles études qui sortent, hein, parce que c'est quand même un phénomène très récent. Mais donc voilà, c'est quelque chose dont je me méfie et qui là en fait n'est pas du tout sur le rapport de l'expérience de jeu, mais qui a une autre technique pour pouvoir faire de l'argent. Et ce système des loot box me paraît quand même très problématique.
Tu disais qu'il y avait des critiques dès qu'il y avait de l'argent dans les jeux, un peu trop. Il y a des critiques qui s'élèvent, par exemple, dans le monde du jeu vidéo sur ces questions de loot box.
Bien sûr, Star Wars Battlefront 2, dont je parlais tout à l'heure, là, qui a fait un énorme bad buzz à cause des loot box justement. Je crois que c'est parce que si par exemple on voulait avoir le skin de Dark Vador, enfin le personnage de Dark Vador, il fallait déjà mettre beaucoup d'argent. En plus, c'était aléatoire et qu'en plus il fallait jouer beaucoup d'heures pour pouvoir avoir accès en plus. Enfin voilà, et donc ça a été une énorme critique sur ce jeu. Donc ça va dépendre de certains jeux. Je pense pas, par exemple, que Hearthstone, dont je parlais tout à l'heure, soit autant critiqué parce que les gens sont habitués à cet achat de cartes Pokémon ou de cartes Magic ou des choses comme ça. Mais
C'est un peu pareil finalement.
Les cartes Pokémon en tant que jeu de société, c'est un peu pareil finalement, ouais. Mais du coup, voilà, ça peut quand même être assez critiqué. Et c'est pour ça que des jeux comme Zelda, Diablo ou autres ont un énorme succès et n'ont pas de lootbox. Donc on sait que c'est possible. Il ne faut pas imaginer que tous les jeux passent par là, quoi.
Pour ce qui est des super objets que tu peux trouver dans ces lootbox et qui peuvent éventuellement se revendre sur des hôtels de vente, alors là, on peut faire un détour par les... encore la zone un peu exceptionnelle du jeu vidéo. Mais il y a parfois certains des objets qui sont... dans les places de marché en ligne, places de marché pour objets virtuels issus de jeux vidéo, il y a des objets qui peuvent atteindre des sommes complètement dingues, non ?
Je sais qu'en tout cas, il peut y avoir des items très chers, en effet. Hein. Je crois que Counter-Strike, par exemple, est un jeu où il y a beaucoup de ventes qui se font comme ça. Après, hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui touche plutôt les adultes. Hein. Les jeunes sont un peu moins dans la question quand même de chiner, de revendre, parce que c'est un système de brocante un petit peu, hein, finalement.
D'investissement, même.
D'investissement.
Le super couteau hyper rare qui vaut 2 millions ou quelques dizaines de millions.
Je sais pas s'il y a des prix pareils.
Mais si, il y a des prix pareils.
Donc c'est assez incroyable. Mais voilà, ça, c'est des trucs qui vont atteindre plutôt les adultes.
Les adultes,
et toucher en plus un truc très rare. On est sur de la collection, peut-être, ou quelque chose comme ça.
Petit aparté, là, tous les jeux dont on parle, c'est plutôt des jeux de garçons, non ?
Alors, ça, c'est un grand sujet. On se rend compte aujourd'hui hein, qu'il y a quand même de plus en plus de filles qui jouent. Et ça, c'est très bien. Alors, il y a quand même des assos qui se mettent en place. Il y a une asso française qui s'appelle Women in Games, par exemple, qui travaille beaucoup. Alors là, c'est plus pour ceux qui travaillent dans les jeux vidéo, pour qu'il y ait plus de femmes dans les studios de développement ou des choses comme ça. Mais il y a tout un travail aujourd'hui pour montrer à quel point les filles jouent aux jeux vidéo aussi. Elles ont le droit, c'est aussi pour elles. Dans les années 80, les salles d'arcade étaient très masculines. En effet, et après aussi il y a eu toutes ces histoires hein, comme quoi bon, on avait toujours les femmes qui avaient des skins juste en bikini alors que les hommes avaient des grandes armures qui cachaient tout le corps ou des choses comme ça, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a quasiment autant de joueuses que de joueurs en fait finalement aux jeux vidéo.
Mais genre, j'ai l'impression que si on reste du côté des enfants, il existe aussi des jeux de filles, notamment sous forme d'applications sur le téléphone, des trucs plus girly, un peu plus à l'eau de rose.
Alors ça, moi je remarque avec les jeunes avec qui je suis hein, qu'en effet les filles vont avoir sur tablette beaucoup de jeux de maquillage ou des choses comme ça, mais par contre on se rend compte que quand on commence à toucher sur le vrai monde des vrais jeux vidéo hein, et pas des applis comme ça de maquillage ou autre, je suis pas sûr qu'il y ait des jeux plus masculins que féminins en tout cas. Certains par exemple parlaient au début d'Animal Crossing comme un jeu féminin parce qu'il n'y a pas de... Alors Animal Crossing, on est sur sa petite île, on va créer ses petites maisons, on va interagir et tout, c'est un jeu assez génial et en fait c'est pas du tout un jeu pour filles, c'est... Et en fait, il faut se détacher un peu de ces clichés-là de les filles ne jouent pas aux jeux de guerre, les filles ont le droit de jouer aux jeux de guerre et les garçons ont le droit de jouer à des jeux de drague, par exemple.
Elles ont le droit, mais après, le biotope n'est pas toujours très favorable sur les forums de jeux vidéo.
Il y a encore du travail. Alors, ça dépend des jeux, mais voilà, il y a encore du travail.
Donc, on a parlé un peu des dépenses qu'on pouvait faire dans les jeux vidéo. Il y a aussi des moyens de gagner de l'argent, en fait, dans les jeux vidéo. Il y a le fils d'une copine avec qui on parlait récemment de jeux vidéo, qui joue à Fortnite, et qui s'est vanté, qui a dit « Ah ouais, mais si je revendais mon compte, ça pourrait valoir quelques centaines d'euros. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?
Il y a certains jeux où certains joueurs vont vendre leur compte. Certains aussi où des joueurs vont se faire payer par d'autres pour pouvoir faire monter en niveau le compte. Ça se fait beaucoup dans les jeux compétitifs en fait. On avait ça à l'époque dans World of Warcraft avec ce qu'on appelait les farmers chinois. Donc c'est ceux qui se font payer pour pouvoir farmer. Donc ça veut dire monter de niveau en allant faire des choses toujours répétitives ou des choses comme ça.
Donc tu payes un mec exactement comme tu paierais quelqu'un pour faire ton jardin parce que t'as la flemme.
C'est ça.
Et ben là tu payes quelqu'un pour aller tuer des monstres. Ou pour te faire monter de niveau.
C'est ça, ou alors après.
Et tu payes avec de la vraie thune.
Avec du vrai argent, par contre, là, ouais. J'en ai connu hein, qui se faisaient payer pour monter de niveau certains comptes et tout ça.
Mais est-ce qu'on peut se dire qu'on peut se faire un petit plus de salaire ou ouais, un petit bonus en jouant aux jeux vidéo ?
Il y a intérêt à être exceptionnellement bon hein, pour faire ça quand même. Hein. Généralement, ceux qui se font payer pour faire du coaching, c'est des très grands joueurs qui, par exemple, vont coacher un peu, apprendre ou des choses comme ça. Je sais que ça se fait par exemple sur Age of Empires, qui est un jeu de stratégie très complexe et où justement certains peuvent proposer des cours particuliers. Donc, tout comme on aurait un cours de guitare, par exemple, pour apprendre à être meilleur à la guitare. La personne que j'ai connue qui faisait monter en niveau certains comptes sur League of Legends faisait ça pour mettre un peu de beurre dans les épinards à la fin du mois, mais parce que c'était un très très bon joueur et que voilà, c'était pas un salaire non plus qui se faisait, mais c'était pour ajouter quelques zéros à la fin sur le compte.
Là, c'est, on arrive à toute la dimension qui peut faire rêver parce qu'on voit qu'il y a des championnats. On parle même carrément maintenant de e-sport avec des championnats, avec des classements, avec des écuries de joueurs, avec des ados parfois qui se font recruter même avant qu'ils aient l'âge pour devenir champion. Récemment, j'ai vu un gamin de 16 ans qui se faisait payer 30 000 euros pour être sûr que quand il aurait 18 ans, il participerait à une équipe de champions de jeux vidéo.
Alors, il faut comprendre que maintenant, ça fonctionne comme le sport. Le e-sport rentre dans le sport. Et donc, tout comme on a des jeunes qui vont se faire payer comme ça pour le football ou pour le basketball, et ben, le e-sport commence à rentrer aussi. Ce qui est plus compliqué avec le e-sport, c'est que c'est encore très récent. Donc, la protection, on va dire, des jeunes d'un point de vue légal, juridique et tout ça, il y a encore du travail aussi là-dessus. Les quelques rares joueurs de e-sport que j'ai rencontrés avaient des conditions de vie assez chaudes, hein, en vrai. Hein. Mais en effet, aujourd'hui, le e-sport et rentrer au même titre que les autres sports en fait. Et d'ailleurs, ils sont en train de penser à le mettre dans les Jeux Olympiques aujourd'hui.
Alors, on a vu les drames que ça pouvait faire chez des petits ados qui rêvent de devenir Kylian Mbappé ou Messi et qui vont jouer au foot comme des dingues. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation ? Je joue déjà aux jeux vidéo, je kiffe les jeux vidéo. Eh ben, plus tard, je peux espérer, même si je suis nul en maths, en gros, faire de la thune.
Bon, alors déjà, quand on fait du sport-études, être nul en maths, c'est pas forcément une bonne chose, hein, parce qu'il y a quand même tout ce travail-là. Mais en effet, en fait, et c'est là où ça a toujours été une question compliquée, parce que si notre gamin joue au foot et a envie de devenir plus tard Kylian Mbappé, on se pose la question, est-ce qu'on doit lui dire, bah non, c'est pas une vie, parce que d'un côté, bah peut-être que plus tard, il deviendra aussi un grand joueur. Pour les jeux vidéo, c'est la même chose. Faut vraiment se dire que le rapport au e-sport doit être le même que le rapport à un sport normal de haut niveau. Et donc, en fait, il y a des jeunes, hein, qui veulent faire du e-sport, hein, tout comme il y a des jeunes qui font du foot et qui ont envie de travailler là-dedans, et il faut aussi se rendre compte que c'est un milieu qui est très compliqué d'accès, mais tout comme dans le sport en général en fait.
Tu parlais de l'addiction aux jeux vidéo en général, sans aller jusqu'à parler peut-être d'addiction, il y a un très fort pouvoir attractif en tout cas du jeu vidéo.
Alors oui, bien sûr.
Je connais des gens qui sont pas forcément accros, mais qui sont des gros gamers et qui passent énormément de temps à jouer.
Déjà, il faut bien différencier ce qui est de l'ordre de l'addiction pathologique, hein, donc de la pathologie, et de la passion juste. Parce que quand on est passionné, on fait beaucoup l'activité qui nous passionne. Et quand on est ado, justement, la passion, ça se travaille beaucoup, donc on peut aussi passer beaucoup de temps dessus. En plus, quand on est ado, encore plus important, ce qui expose le plus sont les jeux en réseau. Donc notamment les Fortnite, les Minecraft, donc ce qui se joue à plusieurs, parce que ce qui nous importe, c'est de jouer avec les copains. Et c'est pour ça aussi qu'on joue beaucoup, parce qu'on passe beaucoup de temps avec les copains.
Et peut-être quand on est adulte aussi d'ailleurs.
Quand on est adulte aussi, hein, souvent c'est les jeux en réseau qui fonctionnent bien, parce que c'est aussi le côté social qui va se jouer. D'où le côté Discord, cette application qui a explosé aussi, parce qu'il permet de communiquer entre temps. Après, il peut y avoir aussi une pratique pathologique du jeu vidéo. C'est pas parce que je dis que moi je fais partie de ceux qui expliquent qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, que je dis pas qu'il y a une pratique pathologique. La pratique pathologique, elle existe, mais elle doit être pensée différemment. Ça veut dire qu'il peut y avoir le jeu excessif, qu'on retrouve souvent chez les ados, c'est la majeure partie du cas. Le jeu excessif, c'est quand on joue beaucoup et qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Et après, il y a ce qu'on appelle la pratique vraiment pathologique, et qui là, généralement, en fait, est un symptôme secondaire lié à une pathologie sous-jacente, très souvent la dépression d'ailleurs. D'abord, il y a de la dépression, et donc on se réfugie dans les jeux vidéo, et donc on joue beaucoup pour fuir en fait cette dépression. Et donc c'est là où on parle pas d'addiction aux jeux vidéo, parce que c'est juste l'arbre qui cache la forêt en fait.
Oui, c'est parce qu'on est complètement au bout du rôle qu'on se réfugie dans le jeu vidéo.
En gros, ouais, c'est ça.
En gros. Est-ce qu'il n'y a pas un mépris vis-à-vis du jeu vidéo et des gamers, parce que ça ne produit rien quand on joue et que ça ne rapporte pas d'argent, et que une fois que t'as joué 30 heures, t'as joué 100 heures, t'as joué 1000 heures, en gros, quand t'as travaillé, je dis pas que ce que t'as fait c'était plus utile, mais ça t'a rapporté de la thune, c'est valorisé socialement, alors que quand t'as joué, ça ne t'a rien rapporté.
Alors ça, c'est un grand sujet, hein, parce qu'en plus on peut parler de certains bullshit jobs où on fait pas grand chose non plus et même ça rapporte de l'argent. Mais bref, en tout cas, je pense que cette question du mépris, elle change. Il était plus grand avant que maintenant par rapport à il y a 10-15 ans et je trouve qu'il est quand même moins attaqué. Après, évidemment, hein, ces attaques-là, on les entend, hein, sur le fait de, on joue, c'est du temps perdu ou des choses comme ça, mais quand on regarde, passer du temps à lire, passer du temps à regarder des films, passer du temps à se poser dans son jardin, on pourrait dire les mêmes choses finalement. Les jeux vidéo, il y a plein de choses intéressantes, ça fait travailler l'imagination, ça fait travailler le social, ça fait travailler certaines capacités de décision rapide ou des choses comme ça.
Même, tu vois, tu essaies de le revaloriser en disant quand même, ça fait travailler. Il y a l'idée qu'il faudrait que ça fasse travailler pour que ça soit valorisé.
Quand j'utilise le terme travailler, je parle dans le sens où ça booste certaines capacités ou des choses comme ça. Je parle pas de travail au sens justement de valeur travail.
En même temps, il y a une vraie idée de méritocratie dans le jeu vidéo. Il y a l'idée de la performance souvent.
Et ben,
l'idée de la construction.
Ça va dépendre. Dans certains jeux qui sont compétitifs, comme Fortnite, bien évidemment, qui a cette question de la compétition. Mais un Zelda, par exemple, il n'y a pas ce rapport à la compétition. Certains jeux sont juste faits pour s'évader. D'ailleurs, il y a même des jeux qu'on va appeler des jeux narratifs où on va juste suivre une histoire comme si on regardait un film. Il y a des jeux contemplatifs où on est juste là pour profiter, regarder, c'est beau et tout ça. Donc en fait, tout va dépendre encore une fois du jeu. Finalement, c'est très compliqué de faire des généralités.
L'autre moyen de gagner de l'argent assez classique, c'est d'essayer de devenir youtubeur ou streamer. Alors streamer, c'est-à-dire qu'on joue avec une caméra en live sur une plateforme par exemple comme Twitch, mm-hmm. et sur l'écran des autres, des autres gens qui voudraient regarder ce qu'on est en train de faire, ils nous voient en train de jouer, ils voient le parcours, les combats ou tout ce qu'on est en train de faire et on peut commenter en même temps.
Alors streamer n'est pas que en lien avec les jeux vidéo.
Oui, Twitch maintenant c'est un peu l'équivalent de la télé en direct.
C'est ça.
Mais ça a commencé notamment avec les jeux vidéo et il y a pas mal de gens qui streament. Ça rapporte ça ?
Voilà. Certains oui. Mais c'est le 1% des streamers qui réussissent en fait à percer là-dedans. Il y a énormément de gens qui vont streamer et qui ne vont pas gagner d'argent avec ça. Et ça
globalement, streamer, c'est les gens qui te donnent de l'argent en fait. Hein. Ils aiment bien te regarder et donc ils te font des dons.
Ça va marcher par dons, ça va marcher par abonnement. La plateforme va prendre un petit peu de pourcentage hein, bien sûr sur les abonnements.
Oui, je crois que c'est 40-50%.
Voilà. Après, sur YouTube, il y a aussi des placements de produits, donc de la publicité ou des choses comme ça qui vont payer. Donc en fait, il y en a certains. Hein. Bien sûr, il y a des gros streamers qui gagnent leur vie de ça, des personnes qui travaillent à la télé. Mais par contre, il y a un nombre énorme, incalculable de gens qui le font et qui ne perçoivent pas un copec aussi. C'est un tout petit pourcentage qui en vivent.
C'est quoi la démarche, l'intérêt d'aller sur Twitch et de montrer ses parties de jeu ? C'est se montrer soi ? C'est espérer gagner quelques euros ? C'est espérer avoir des fans ?
Sur le pourquoi est-ce qu'on le fait, en fait, il y en a aussi certains qui s'étaient lancés à l'époque où ça a commencé et qui se filmaient et qui partageaient ça parce que ça permettait aussi de ne pas être seul, d'avoir des gens qui participent avec nous, qui discutent ou des choses comme ça. Il y en a certains qui vont le faire aussi parce que ce sont des joueurs pros et que justement on peut les regarder s'entraîner ou des choses comme ça. Il y en a qui sont plus là dans une option de je suis une sorte d'animateur. Et quand on va sur Twitch, en fait, on va soit être intéressé par un jeu en particulier, donc on va regarder n'importe quel streamer qui stream ce jeu-là parce qu'on a envie de voir tel jeu, soit parce qu'on n'a pas l'argent pour se le payer ou pas le temps pour y jouer, donc on a envie quand même de voir à quoi il ressemble, donc on regarde quelqu'un qui y joue. Soit on va regarder un joueur professionnel ou extrêmement bon à un jeu pour apprendre de lui ou alors pour regarder ça de manière impressionnante.
Comme on regarderait le Roland Garros.
Voilà, exactement. Soit sinon, on va regarder aussi parce que le streamer nous plaît pour son caractère, pour son humour. Tout comme Papy Mamie regarde Drucker parce qu'ils aiment Drucker et pas ce que Drucker dit, mais ce que Drucker est.
Ça va faire plaisir aux streamers de se faire comparer à Michel Drucker. Toi, t'as déjà donné de l'argent à des streamers ?
Oui. Pas beaucoup, parce que je suis psy et on roule pas sur l'or les psys. Mais j'avoue que moi je donne de temps en temps à des streamers que j'aime bien. Et notamment après moi je donne souvent à des streamers qui sont pas des énormes streamers non plus. Parce que moi j'aime bien et je me dis je suis content qu'ils fassent ça et j'ai envie de participer un peu. Donc je fais un petit don, ça m'arrive.
Ça s'est carrément démocratisé, enfin c'est maintenant un truc assez populaire. Nous d'ailleurs sur Thune, on fait un appel au don de Tipeee en se disant si les gens aiment bien notre média, ils peuvent donner. Et maintenant c'est vraiment une démarche qui est très courante en fait, le micro-don.
Si vous avez
rappelle un peu la micro-transaction d'ailleurs du jeu vidéo, on est pareil sur des petites sommes. Mais si tu veux, avant l'abonnement aux journaux par exemple, c'était tout de suite, bam, toute l'année, mais on t'offrait un radio réveil et tu claquais 100 balles, 200 balles. Et là maintenant, tout le monde a cette idée de micro-don, micro-transaction.
C'est ça. Et surtout que là, il y a ce côté de je donne ce que je veux pour pouvoir faire vivre la personne. Et puis il faut voir aussi, il y a un événement incroyable en France qui s'appelle le Z-Event, qui a fait beaucoup de bruit, qui est un événement organisé par un streamer qui s'appelle Zerator, donc qui est très connu en France, et un autre dont j'ai perdu le nom. Et en fait, c'est un énorme événement où il y a plusieurs dizaines de streamers, je crois que c'est une cinquantaine, qui se réunissent pendant un week-end, et tous les dons sont reversés à une association. Et ça a fait un boucan phénoménal. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été récupérés en un week-end chaque année pour des associations comme Amnesty International, Institut Pasteur ou des choses comme ça.
C'est le Téléthon du jeu vidéo.
Ça, exactement. Et sauf que ça rapporte beaucoup. Et en fait, parce que aussi, ça permet de redorer un peu le blason aussi du jeu vidéo. Et d'ailleurs, cet événement-là, le Z-Event, a toujours été intelligent dans le sens où c'est du vrai don qui est fait et aucun streamer ne perçoit de sous sur ce moment-là.
C'est très beau. Est-ce qu'on peut se faire bien arnaquer ou bien carotter de la thune sur les jeux vidéo ?
Je pense qu'on peut se faire carotte quand même, hein, évidemment.
Ça veut l'envers dire de la médaille, exemple de carotting.
J'ai déjà eu des jeunes qui étaient tombés sur des streamers pas très cool, qui grattaient beaucoup, donnez-moi de l'argent, j'en ai besoin pour tel ou tel truc, et ça c'est quand même assez problématique. Les gros streamers ne le font pas, heureusement, mais ça peut arriver. Moi, ce que je conseille souvent pour les jeux vidéo aux parents, c'est qu'il y a un site qui s'appelle microtransaction.zone et qui vous présente un petit peu tout le système économique de chaque jeu vidéo. Vous tapez le jeu vidéo que votre gamin veut ou auquel il joue, et vous allez voir un peu si le jeu est un gouffre à fric ou pas en fait, et ça c'est vraiment intéressant.
Microtransaction.zone.
C'est ça.
Et après il y a la dernière dimension de la thune dans les jeux vidéo, alors c'est les jeux qui ont imaginé des monnaies, comme je pense à la sandbox, des monnaies qui vont te permettre dans le jeu de t'acheter des propriétés immobilières, des NFT qui vont faire que cette maison sera à toi, par exemple, qu'elle sera plus ou moins près de celle de Snoop Dummy Dog, par exemple, qui a une maison dans le jeu, que tu pourras décorer avec des tableaux qui valent cher, qui seront aussi des NFT, que tu pourras vraiment revendre, des monnaies qui sont des crypto-monnaies, qui elles-mêmes valent de la thune avec un cours de la monnaie du jeu. Alors là, c'est vraiment la dimension super pécuniaire.
Ouais, ça c'est un truc de niche, hein. Je pense que ça concerne vraiment les adultes, hein. On est sur de la dépense d'argent, de la crypto-monnaie. Alors après, il y avait des choses comme ça, comme par exemple sur Second Life à la base, donc qui était un jeu il y a assez longtemps, hein, où on pouvait se créer une seconde vie et vivre pleinement dedans. Il y a des gens qui se sont mariés sur Second Life par exemple, ou des choses comme ça.
Il y a des gens qui allaient au strip club sur Second Life.
Exactement. Et où là, du coup, en fait, il y avait cette espèce d'investissement d'un autre monde dans lequel on allait s'acheter une résidence secondaire ou des choses comme ça.
Et là, vraiment, on est sur une dimension qui est l'équivalent de la vie, donc tu peux faire la même chose. Tu peux acheter, revendre, investir, claquer.
À mon avis, on est sur quelque chose de, quand même de niche. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas toucher la personne lambda. On est à mon avis sur des gens qui cherchent à faire de l'investissement comme on a eu en fait avec les cryptos. Il faut faire attention à ce genre de bulle spéculative énorme. Les NFT, par exemple, ça s'est écroulé, on l'a bien vu, hein, ça n'a pas duré très longtemps.
Les petits singes qui envoient des lasers avec des yeux.
Ça reste des énormes bulles spéculatives et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et là, pour moi, on s'éloigne quand même beaucoup du jeu vidéo. On n'est plus du tout dans du jeu vidéo parce que le jeu vidéo, ça doit avoir cet aspect jeu, donc cet aspect ludique, cet aspect où on s'amuse et où on s'évade, et en fait là on l'est plus du tout.
Il y a de l'évasion dans un monde virtuel, et d'ailleurs c'est un peu ce que nous promet le métaverse, c'est l'idée que tu peux un peu comme dans le film Ready Player One de Spielberg, tu peux avoir une vie entière d'évasion avec des ressorts qui sont très comparables à ceux de la vie, mais en différent, en plus marrant.
Ouais, mais c'est pas le même type d'évasion que ce que va apporter le jeu vidéo, parce qu'il n'y a pas le ludique, il n'y a pas le jeu. Et en fait, bah, dans jeu vidéo, il y a jeu, il faut jamais oublier ça, c'est ça le plus important. Et là-dedans, on est dans autre chose, finalement.
Tu crois que si j'ai un avatar marrant qui peut faire des bonds de 15 mètres, que je peux voler dans les étoiles, combattre des dragons et m'acheter une maison?
Je pense pas que c'est ce que nous promettent aujourd'hui les sandbox, et d'ailleurs le métaverse ne proposait pas ça. Et d'ailleurs le métaverse était aussi beaucoup pensé sur le côté métier ou autre. D'ailleurs on a vu que le métaverse ça a pas du tout fonctionné, hein, dernièrement. Second Life ça a attiré une certaine tranche de la population qui en effet, hein, ont pu justement y vivre une autre vie, faire de nouvelles rencontres, des choses comme ça. La question c'était, est-ce qu'on était vraiment sur un jeu vidéo ou sur un métavers? Et ça c'est vraiment des questions qu'on doit se poser là-dedans. C'est autre chose finalement que ce qu'apporte un jeu, quoi.
Alors en fait, ce que tu es en train de me dire depuis le début, finalement, c'est que même s'il y a de l'argent dans les jeux vidéo, toi, tu crois, t'as l'impression que c'est quand même un univers où l'argent est pas très bien vu, peut-être encore moins bien vu, s'il est trop présent ou s'il est trop mis en avant, encore moins bien vu que dans la vie réelle.
L'argent, en fait, bien sûr que on va payer pour pouvoir jouer à un jeu. En même temps, on s'en doute, il y a des gens à payer, tous les gens qui ont travaillé dedans ou des choses comme ça.
Les développeurs, les graphistes,
voilà.
Les scénaristes.
Il y a des jeux plus ou moins chers, c'est normal qu'un AAA coûte plus cher qu'un jeu indépendant où il n'y a qu'une toute petite équipe qui a bossé dessus ou des choses comme ça. Donc ce rapport à l'argent-là ne va pas déranger, tout comme le rapport au fait de payer un film quand on veut aller au cinéma. Après, bien sûr, il y a la question aussi de la montée des prix et tout ça, mais ça c'est un autre sujet. Par contre, à partir du moment où l'argent commence à rentrer dedans et change le système de jeu, c'est une toute autre affaire. Et finalement, je suis pas sûr que la question de se faire de l'argent à travers les jeux vidéo est ce qui intéresse le plus en fait la quasi-totalité des joueurs. Ce qui intéresse les joueurs, c'est de jouer. Ça veut dire qu'il faut que ça soit accessible à tous et que finalement tout le monde puisse en profiter autant. Que le jeu soit payant à la base, d'accord. Que le jeu nous propose, par exemple, de payer pour une apparence, donc pour une customisation qui ne change pas le rapport au jeu, pourquoi pas. Mais alors par contre, que l'argent vienne changer le pouvoir qu'on a finalement dans l'univers du jeu vidéo, là ça devient problématique.
Dernière question, est-ce que ça peut changer le rapport d'enfant, d'ado à la thune, d'y être aussi exposé dans cet univers-là? Ou est-ce que le fait qu'à la fin tout se transforme en course de voiture et en petit dragon pour aller vite, ça abolit complètement la réalité de l'argent?
Encore une fois, quand on est ado, ce qu'on cherche le plus, c'est souvent jouer avec ses copains. C'est majoritairement ça. Ça veut dire que ce qui compte le plus dans notre expérience de jeu, c'est de pouvoir jouer en réseau pour pouvoir jouer avec les copains du collège, du lycée ou autre. Et en fait, d'ailleurs, certains sociologues ont comparé Fortnite à ce qu'étaient les skateparks avant. Donc ces lieux de rencontre où on se retrouvait à l'extérieur du collège ou du lycée. Et ça, c'est très intéressant, hein, de voir ça. C'est des études en sociologie qui ont montré que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'espace de socialisation pour les jeunes. les skateparks disparaissent, les MJC disparaissent. Et avant, dans les années 80, les centres commerciaux étaient le lieu par excellence. Aujourd'hui, vous êtes un groupe de jeunes qui va traîner dans un centre commercial, vous allez vous faire foutre dehors par le vigile assez rapidement. Et donc du coup, eh ben, si les jeunes investissent autant les univers numériques, c'est aussi parce qu'ils ont moins d'espace à l'extérieur pour pouvoir en fait se réunir. Et ça, on s'en rend compte quand, par exemple, une médiathèque commence à acheter une PlayStation 5 accessible à tous, les jeunes viennent par quarantaine pour jouer ensemble. Et alors que pourtant, il y a quatre manettes. Mais ils regardent, ils interagissent, ils jouent ensemble, ils passent leur tour. Alors qu'ils pourraient tous être chez eux à jouer sur leur console. Mais non, ce qui les intéresse, c'est d'être ensemble. Et donc, en fait, l'objectif, c'est aussi de penser ça. C'est que quand on est jeune, c'est pas le rapport à la thune qui nous intéresse, c'est le rapport au social. Et en fait, le jeu vidéo est un espace social aussi où on va pouvoir se retrouver entre potes. Et c'est aussi un espace d'évasion.
Pour les parents qui se font un peu tondre en cette rentrée, ou qui se font beaucoup demander « Dis donc, papa, maman, tu peux me payer ça, ou j'ai besoin de m'acheter ça sur tel ou tel jeu ?»
Bah, c'est la même chose que quand le petit demande un nouveau Lego ou un nouveau Playmobil ou des choses comme ça.
Ah bah la différence, c'est que l'objet virtuel, il reste pas.
L'objet virtuel, il reste pas, c'est vrai. Mais comme je disais, si on joue à Fortnite et que c'est un jeu auquel on joue beaucoup, le jeu a été gratuit. Si on dépense 20 balles pour un skin, c'est pas très grave en soi, en fait. C'est tout comme le principe de notre jeune qui veut un Playmobil à 15 balles. Bah, on lui achète, mais on sait qu'il va pas rester. Hein. Dans quelques années, il sera dans un carton. Hein. Même s'il est toujours là, le jeune, il jouera plus non plus. Finalement, c'est la même question qui se passe par rapport avec les jeux pour enfants.
Et un gamin dont les parents ont vraiment pas beaucoup de thunes, est-ce qu'il peut s'éclater aux jeux vidéo ?
Oui.
Ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de thunes d'ailleurs ? Peut s'éclater des heures aux jeux vidéo. Est-ce que c'est un des loisirs les moins chers, éventuellement, de la société contemporaine ?
Alors, je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas chers du tout. Hein. Faire du yoga dans un parc, par exemple, ça ne doit pas être très cher non plus. Mais en tout cas, c'est possible, quand on n'a pas de thunes, de pouvoir se faire plaisir aussi. On peut très bien acheter un jeu pas trop cher pendant les soldes ou autre et y jouer pendant très longtemps. On peut aussi profiter pleinement d'un free-to-play sans avoir à dépenser pour un skin ou autre.
On peut revendre son jeu pour en racheter un autre.
On peut de moins en moins revendre aujourd'hui avec la dématérialisation maintenant, hein, malheureusement. Donc ça, c'est quand même autre chose. Mais on peut aussi, si on n'a pas l'argent, se faire inviter chez les copains qui ont les jeux pour jouer avec eux ou des choses comme ça. Donc c'est, je dirais pas non plus que c'est un des passe-temps les moins chers, hein, parce que ça reste quand même cher, les jeux vidéo.
Toi, tu dirais que t'as claqué combien dans les jeux vidéo ?
Oula, j'ai pas envie de savoir. J'ai jamais compté, mais je pense que je dois avoir un budget de sans exagérer, maximum peut-être 250€ l'année, je dirais. Alors que je joue quand même pas mal. Là, dernièrement, je me suis acheté un jeu exceptionnel qui s'appelle Outer Wilds, qui m'a coûté 25€ avec le DLC.
Avec voilà. L'extension, ouais.
Exactement, et je vais y passer une vingtaine d'heures, je pense.
Ouais,
donc ça fait 1€ de l'heure. Et malheureusement, ça reste moins cher que 2 séances de ciné.
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner. Bah oui, même avec un ou quelques euros par mois. Afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.